Bonjour, voilà, nous sommes réunis pour ce quatrième cours sur le cœur de Jésus. Après nous être mis à l'écoute des révélations du cœur de Jésus à Marguerite Marie Alacoq, nous avons pu vérifier l'authenticité de ces révélations privées en constatant qu'elles étaient déjà présentes dans l'Écriture sainte et la tradition de l'Église. Et nous avons brièvement reçu la confirmation du magistère, particulièrement en relevant quelques points importants de l'encyclique Orientis Aquas in Gaudio de Pie XII. Avec le magistère, nous avons pu comprendre combien le cœur de Jésus résume avec éclat toute la foi chrétienne. Pour ce dernier cours, nous proposons quelques approfondissements théologiques. De fait, nombreuses sont les questions que l'expérience de Marguerite Marie et de nombreux autres chrétiens et saints suscitent. Ici encore, impossible de les relever toutes. Le sujet est vaste. Et donc je vais m'attarder à deux d'entre elles, le symbole d'une part et la réparation de l'autre. Le cœur de Jésus est le symbole de la foi chrétienne, son résumé, sa synthèse. En quel sens faut-il l'entendre? Qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Donc je prendrai le temps de mieux percevoir ce qu'est un symbole et ensuite de comprendre en quoi celui du cœur possède une place particulière et unique. Ensuite, nous avons vu que le Seigneur demande réparation. Ce souhait de Jésus semble aujourd'hui dérivé de l'ordre de la justice, non de l'amour, que ce n'est assez dur. Et donc, après avoir précisé l'articulation entre la miséricorde et la justice, nous montrerons comment la réparation, bien comprise, découle justement de la logique de l'amour, comment elle lui est inhérente. Et nous terminerons en essayant d'articuler la souffrance et l'amour. Voilà le programme de ce cours-ci. Alors nous l'avons vu en la personne de Pie XII, le magistère a plusieurs fois affirmé que le cœur de Jésus est un symbolum en latin, un symbole. On trouve 15 occurrences de ce substantif dans le texte de Pie XII. Dans son encyclique, le mot n'est pas défini. Il semble interchangeable avec d'autres termes tels que index ou imago. Et il est aussi dit que le cœur de Jésus est la summa, la somme, le résumé, la synthèse de tout le mystère de l'incarnation et de la rédemption. C'est pas mal. Donc je vais tenter ici de mieux saisir en quel sens le cœur de Jésus est un symbole. Aujourd'hui, le mot symbole peut signifier différentes choses. Il y a des symboles logico-mathématiques qui servent dans les sciences et que l'on retrouve sur nos ordinateurs. Ce n'est pas en ce sens que le cœur de Jésus est un symbole. En effet, ce type de symbole comporte une dimension abstraite, arbitraire et ahistorique. On peut très bien dire le symbole appartenir par un autre symbole. On pourrait décider de remplacer le plus par autre chose. Maintenant, évidemment, qu'on a choisi le plus, c'est très difficile. Mais au départ, on aurait pu prendre un autre signe qu'une croix. Et donc, ce symbole est sans référence à une circonstance particulière et concrète. Au sens étymologique, le symbole signifie ce qui est jeté ensemble. Originellement, c'est un fragment de poterie dont chacun de ceux qui ont conclu une alliance possède une partie. Vous imaginez des personnes qui ont pris une poterie, elles ont conclu une alliance, un contrat entre elles, et puis elles brisent la poterie, et chacune a un morceau. Mettre les différents morceaux, les différents fragments, parfois transmis aux descendants, permet aux parties, justement, de se reconnaître en l'alliance et de lui donner actualité. Le fragment que chacun a renvoie aux autres et à l'accord conclu. Il est l'élément visible qui signifie qu'il appartient à une réalité plus grande que lui. Élément qui ne peut se comprendre vraiment sans cette réalité plus large. Le simple morceau, simple fragment, tout seul ne peut pas dire grand-chose. Il porte une signification énorme quand on le réintègre dans plus large, du plus large. Cette réalité plus ample l'est doublement. Premièrement, c'est celle des autres fragments de la poterie. Il y a un, deux, trois morceaux, ça dépend ce qu'on a voulu au départ. Deuxièmement, c'est la réalité de l'alliance conclue entre les personnes. Ici donc, la réalité spirituelle invisible. Et donc on le saisit, le symbole fait signe vers autre chose, vers plus grand que lui. Et il le fait, à la différence du signe, de manière plurielle. Il renvoie non seulement aux autres fragments, mais aussi et surtout, parce que c'est là son but, à l'alliance des personnes. Et donc, à tout ce que cette alliance implique comme histoire commune, familiale et personnelle, comme insertion et manière d'être dans la société, comme engagement des libertés, comme manière de communiquer, etc. Et parce qu'il renvoie ce dont il est issu et ce qu'il évoque, le symbole est également le moyen de reconnaissance entre les contractants. Ainsi, le symbole est le moyen par lequel un mystère, au sens d'une réalité qui déborde toujours la pensée, l'entendement, qui ne peut se résumer à une seule idée, donc le symbole est le moyen par lequel un mystère se communique à l'homme. Et, à mon sens, c'est là une des difficultés de l'homme actuel par rapport au symbole. Et il ne se laisse pas enfermer dans une seule et simple idée claire, parce qu'il la dépasse tout en l'assumant. On ne peut réduire le symbole à l'univocité si chère à la méthode scientifique, même si la méthode scientifique est bonne, mais cette univocité est aussi une sorte de pauvreté pour la méthode scientifique. Pour autant, le symbole ne sombre pas dans l'équivocité. Ça veut dire qu'il dirait n'importe quoi, et on pourrait dire tout du symbole. Il dirait absolument tout. Non, le symbole ne signifie pas tout et son contraire. Il est plutôt de l'ordre de la plurivocité. Il dit plusieurs choses. Et il est orienté et il est normé par la réalité signifiante, d'une part, et la réalité signifiée, qui, comme toute réalité, déborde de toutes parts la pensée. Le sens étymologique du symbole prend ainsi le contre-pied du sens que le langage courant lui a donné aujourd'hui, à savoir que le symbole serait opposé au réel. De fait, on dit aujourd'hui que c'est symbolique. Et par là, on signifie que ce n'est pas réel. On parle encore du franc symbolique pour indiquer que l'on n'a pas payé le prix réel, mais que cela a été donné, moyennant pour signifier le transfert de propriété, donc que l'on a donné un paiement dérisoire par rapport à la valeur pécuniaire de la chose. Or, comme on peut le percevoir dans le fragment de poterie, le symbole ne s'oppose pas au réel. Au contraire, il fait fond de la réalité. Je vais développer ça un peu plus tard. Voilà pour la première partie. Le symbole donc possède une grande amplitude. Il intègre tout ce qui est proprement humain. C'est un acte de langage qui inclut la société, l'histoire, le corps, les sens, l'imaginaire et l'affectivité, et enfin les puissances de l'homme que sont la mémoire, l'intelligence, et donc le concept, la volonté et la liberté. C'est ce qu'on pourrait appeler les dimensions anthropologiques du symbole. Je reprends, je développe. Le symbole possède premièrement une dimension socio-culturelle qui est comme sa largeur. On l'a vu, il est le langage des communications. Il rassemble les hommes et leur permet de communier les uns avec les autres. Ça, c'est assez clair. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'étendre davantage sur ce point. En plus de sa dimension sociale, le symbole comporte aussi une dimension historique, qui est comme sa longueur. Et de fait, il intègre le facteur du temps. Celui-ci est déjà présent dans la distanciation, ou la distinction, pardon, que l'on peut faire entre le moment de la création du symbole, celui de la possession du symbole, et celui de son actualisation, lorsque les personnes concernées se retrouvent. Le symbole renvoie donc à une origine commune qui fonde le groupe. Il dit ce groupe, même en son absence, dans le sens de la présence physique des personnes. Enfin, il soude le groupe lorsque celui-ci se rassemble grâce au symbole. On le voit aisément dans le drapeau. Je suis un peu perturbé par ce qu'il y avait derrière vous. En fonction de ses couleurs et de leur agencement, le drapeau symbolise tel ou tel pays. Sa fondation, son histoire, sa réalité présente, sa puissance de rassemblement. La chose est profondément vraie en ce qui concerne le symbole de la foi, puisque la foi est le symbole, sans que dans une histoire précise, celle de Jésus qui accomplit l'Ancien Testament, le Christ, histoire qui ne cesse de s'accomplir depuis 2000 ans en chaque chrétien jusqu'à nous et s'accomplira en plénitude à la fin des temps. Une troisième dimension du symbole est son ancrage dans le réel, et par là sa vérité et sa corporalité. On pourrait parler ici de la hauteur du symbole. Pour percevoir cela, il faut avoir à l'esprit deux aspects du symbole. D'une part, tout symbole est intimement lié à la matière, ce qui symbolise peut être matériel, comme le cas d'un fragment que vous avez vu tout à l'heure. Ce peut être aussi de l'ordre du geste ou d'une parole, et ainsi constituer un rite. C'est évident pour un objet, cela peut être un peu moins pour le geste et encore moins pour la parole. Mais en réalité, poser un geste comme parler, c'est faire quelque chose avec son corps. Et la perception de l'objet ou du geste symbolisant est reçue par le corps à travers les cinq sens. D'autre part, le symbole est encore intimement lié à la réalité en tant qu'il désigne quelque chose de réel, même s'il n'est pas matériel. Concret, l'objet, le geste ou la parole symbolisant renvoie à autre chose qu'eux-mêmes. On pourrait dire qu'ils sont transcendés. Ils désignent et ouvrent une réalité qui est au-delà d'eux-mêmes en tant que simple objet, geste ou parole. Une réalité parfois moins facilement perceptible ou sensible. Alors, pour illustrer, prenons trois exemples. Un drapeau au bout de tissu coloré désigne une nation précise, un ensemble de personnes réunies par une histoire, une culture, des lois communes, etc. On peut remarquer que le drapeau dit toute la nation qu'il symbolise, tout en respectant les innombrables différences et diversité qui font ce pays. Autrement dit, il dit l'unité dans le respect de la différence. En lui, l'ancrage concret, son identité, son unicité, sa contingence, sa singularité, inclus tout en les respectant vraiment la différence, la pluralité, l'absolu et l'universalité. Les chants de Noël que l'on reprend chaque fois en fin d'année constituent un symbole de ce qu'est la fête de Noël. L'Eucharistie en est un autre exemple. En philosophie, on a cherché à rendre compte de cela et on l'a fait notamment grâce au concept d'analogie. Alors, l'analogie, qu'est-ce que c'est? C'est les rapports entre rapports où on constate que, par exemple, dans certains cas, la dissemblance est plus grande que la ressemblance. Donc on compare A et B. A, le rapport entre A et B a quelque chose de commun avec le rapport entre C et D. Saint Thomas d'Aquin explique à propos du cœur, comme le résume Édouard Plotin, que la faculté volontaire est au dynamisme spirituel ce que l'organe cardiaque est au dynamisme corporel. Autrement dit, la volonté est à la vie spirituelle ce que le cœur est au corps. Et dans le cas précis, on voit que le corporel devient le symbole naturel du spirituel. À l'intérieur de la foi, ce rapport est encore plus solidement fondé. En effet, Jésus est le signe visible de l'invisible. L'ancrage du symbole dans le réel permet de comprendre sa vérité. Il renvoie à quelque chose. Il y a quelque chose qui se révèle en lui. Il n'est pas simplement message, contenu cognitif. À travers lui, quelque chose d'autre se révèle, se dévoile vraiment. La quatrième dimension du symbole est ce qu'on pourrait appeler sa profondeur. On désigne ainsi tout ce qui concerne la subjectivité, non pas en tant qu'elle s'opposerait à l'objectivité, mais en tant que vie intérieure du sujet. Cette vie intérieure est intimement liée au corps, à ce que le sujet ressent en lui. De fait, grâce aux cinq sens corporels, l'homme perçoit l'objet ou le geste symbolique. Et de cette manière, l'homme est marqué imaginativement et affectivement. Par la mémoire et l'intelligence, il en retient quelque chose pour pouvoir se gouverner lui-même. Et donc on peut dire que plus un symbole rejoint l'expérience corporelle commune des hommes, plus grande est sa force symbolique. Si je vous parle de l'eau, c'est l'expérience que nous faisons tous, l'eau. Et donc ça parle très fort. D'autre part, l'homme peut recevoir la vérité du symbole que s'il entre en relation avec l'objet symbolisant et qu'il s'ouvre à son surcroît de sens. Autrement dit, la liberté doit s'engager. On doit vouloir faire sien le symbole pour entrer dans ce qui se donne à connaître à travers lui. De cette rapide évocation des dimensions du symbole, on perçoit combien le symbole implique et intègre toutes les dimensions de l'être humain. Il est en ce sens la plénitude du langage parce qu'il parle à tout l'homme. Sa profondeur, sa hauteur, sa longueur et sa largeur lui confèrent une richesse qui ne se laisse pas enfermer dans le concept. S'il est moins clair que celui-ci, que le concept donc, ce n'est pas en raison du moindre, mais d'une plus grande richesse que le concept. Il le déborde, ne fût-ce que parce que les sensations, l'affectivité et l'imaginaire ne se laissent pas réduire. Et donc, cette richesse découle de l'être humain. Toujours en surcroît de ce qu'on a compris de lui, il est comme une mine d'or qui permet à la pensée de se renouveler sans cesse, qui rejoint l'homme dans toute l'épaisseur de son être. Un autre avantage du symbole et qu'il met l'homme en état d'accueil, précisément parce qu'il déborde le concept. Tout en suscitant la liberté, il l'amène à se rendre compte que la réalité le dépasse. Et c'est de cette manière, entre autres, qu'il donne à l'homme la possibilité de renouveler sa pensée. Alors on voit que ces quelques réflexions donnent une idée du grand intérêt du symbole. Ça donne un avant-goût des raisons de son caractère indispensable et indépassable. Une culture où la pertinence de la connaissance est réduite à la clarté et à l'univocité de l'idée va se trouver nécessairement en difficulté face au symbole. Et elle sera tentée de le rejeter ou de le mépriser comme indigne de la grandeur de la raison. Mais ce faisant, on se condamne notamment à ce que la connaissance soit déconnectée de la vie quotidienne et à ne plus pouvoir renouveler sa pensée. En réalité, le symbole, comme le dit Ricoeur, donne à penser, et plus encore, il donne de penser. À notre sens, ce n'est que de l'intérieur du symbole qu'une pensée trouve la possibilité et la force de changer de paradigme. Voilà pour le deuxième point sur le symbole. Après donc une première approche du symbole et une esquisse de ses dimensions, réfléchissons un petit peu au cœur. Si le Sacré-Cœur est le symbole de toute la religion chrétienne, ce n'est pas sans raison, sans fondement. Et donc je vais essayer une petite phénoménologie du cœur afin de mieux percevoir la pertinence du cœur dans la foi chrétienne. Et donc c'est une approche assez personnaliste. Dès la petite enfance et tout au long de sa vie, l'homme fait l'expérience du cœur. Tout bébé déjà, et tout au long de sa croissance, il est porté dans les bras de ses parents ou accueilli dans le sein. Blotti là durant des heures, entouré de bras protecteurs et de mains qui se font caresses, il fait l'expérience d'une grande intimité avec celui qui le berce ou l'accueille. Il perçoit confusément d'abord, puis plus clairement avec l'âge, les battements du cœur de celui qui le tient contre lui. Il sent qu'il y a à l'intérieur de la poitrine quelque chose de vivant qui, selon les circonstances et les émotions, bat à des vitesses différentes. L'enfant perçoit donc, comme il convient à chacun de ses âges, qu'il y a une vie à l'intérieur. Cette perception est d'abord physique, et plus précisément, elle est de l'ordre du toucher et de l'ouïe. Elle va se renforcer encore avec l'allaitement. Le bébé expérimente qu'il y a quelque chose à l'intérieur du sein qui le nourrit. C'est ici, en plus du toucher, le goût qui le lui dit. Bien encore confirmer cette sensation d'intériorité, le regard qu'on lui accorde et la parole qu'on lui profère, ce qui ajoute encore le sens de la vue à ceux du toucher, de l'ouïe et du goût. Et donc, ces quatre sens se conjuguent pour lui donner l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur du corps, impression qui entre en résonance avec la croissance et la prise de conscience de sa propre intériorité. Soulignons parmi les différents sens la particularité du toucher qui marque spécialement l'immédiateté du contact et l'irréductibilité de l'altérité. Alors évidemment, un nourrisson ne se dit pas tout cela. Mais en grandissant, la perception devient de plus en plus consciente et le langage vient mettre des mots sur ce qui est vécu. Dans l'expérience de l'enfant dans les bras, outre les sensations que j'ai essayé d'écrire, il y a aussi l'expérience de l'amour dont il est l'objet. Et pour l'enfant, c'est tout un que de sentir le contact corporel, une vie intérieure physique et l'amour. Avec l'âge, l'enfant apprend à distinguer les choses, mais ces distinctions se font toujours à l'intérieur de l'unité première. Il découvre donc dans cette unité la réalité de la vie interne. Et donc il réalise progressivement, particulièrement grâce à la parole, qu'il existe une vie spirituelle, fait le passage de l'un à l'autre. Et le drame survient souvent quand cette unité est brisée. Donc il faut distinguer, et l'enfant doit apprendre, tout est confus et ensemble au départ. Et l'enfant doit apprendre à distinguer les choses. Mais le drame, c'est que quand on ne fait plus que distinguer et qu'on les sépare complètement, comme si ça n'avait rien à voir. Or, dans les bras, l'enfant a bien compris que tout tient ensemble. Et il a raison. Et donc, on voit que le cœur physique est comme le symbole de la vie intérieure qui est amour. Du coup, on saisit mieux la pertinence du cœur de Jésus pour exprimer la vie intérieure, l'amour de Dieu, l'affection humaine du Christ et son amour humain. Et on comprend aussi combien ce symbole est profondément universel, sans rien nier du singulier, de ce qui est le plus singulier. Dès les premiers moments, l'expérience du cœur implique toutes les dimensions du symbole. Sa largeur sociale, sa longueur historique, sa hauteur ontologique et la profondeur de son intériorité. Voilà pour le symbole. Comme on l'a vu, Jésus a demandé à Marguerite Marie, à la coque, cinq choses en réparation. J'aborde maintenant la réparation. Ce mot de réparation au niveau spirituel grince aujourd'hui. Il est en fait souvent mal compris. Dans la culture actuelle, il donne l'impression qu'il faut satisfaire à la colère d'un Dieu vengeur et capricieux. Parce qu'il aurait été lésé, Dieu voudrait faire souffrir l'homme, il exigerait que l'être humain souffre en compensation du mal que l'homme a fait en péchant. Et donc Dieu rendrait le mal pour le mal. Au nom de l'amour de Dieu et de sa miséricorde, il faudrait ainsi refuser l'idée de réparation qui dépendrait de celle de justice. La réparation s'opposerait aussi avec l'idée de gratuité de l'amour divin. Cette perception de la réparation va souvent de pair avec une opposition entre miséricorde et justice. Au nom de la miséricorde de Dieu, sa justice serait devenue caduque. On trouve d'ailleurs de nombreux exemples de cette vision tronquée des choses dans l'histoire de l'Église. Selon son point de vue, ce serait une déclinaison, le propre du Dieu du Nouveau Testament serait d'être miséricordieux à la différence de celui de l'Ancien Testament qui serait colère et raide justice. Alors, à juste titre, comme on le pressent, une telle manière de comprendre la réparation ne s'accorde pas avec l'amour qui est Dieu, et donc avec le cœur de Jésus, bien sûr. Mais cela ne signifie pas qu'il faille rejeter la réparation. Il s'agit plutôt de se délester d'une compréhension erronée de cette réparation pour découvrir ce qu'elle recouvre vraiment, ce qui est vraiment signifié. Et comme on l'a pressenti, une juste perception de la réparation découle d'une saine intelligence du rapport entre la miséricorde et la justice. Or, Dieu est tout autant miséricorde que justice, et inversement. En réalité, il n'y a pas d'opposition entre ces deux propriétés divines. Plus encore, d'efforcer la justice de Dieu pour honorer sa miséricorde revient à la déprécier, à la rendre sans consistance. quelque chose de tout mou. Il déprécie la miséricorde pour honorer la transcendance de Dieu et ses droits, et contraire à l'amour que signifie le cœur de Jésus. Abordons alors justement le rapport entre la miséricorde et la justice. Pour mieux percevoir comment ils s'articulent, on peut prendre quelques images qui se corrigent entre elles. Elles sont insuffisantes, bien sûr, parce que le mystère est plus grand qu'une image et qu'un concept. Imaginons donc premièrement un homme qui marche seul sur un chemin balisé dans des marais. À certains endroits, il est indiqué qu'il ne faut en aucun cas sortir du chemin sous peine de se retrouver dans des sables mouvants. Or, voici que cet homme trouve qu'on lui casse les pieds. Il choisit de ne pas tenir compte de l'avertissement. Il a quand même le droit d'aller et de faire ce qu'il veut. Pour lui, à ce qu'il paraît, il n'y a là certainement aucun sable mouvant. Mais ayant à peine fait quelques mètres, le voici effectivement pris dans la vase, s'enfonçant petit à petit, inexorablement, sans aucun appui, sans aucune prise qui lui permettrait de s'en sortir seul. Et c'est alors que, par providence, un autre promeneur survient et constate le danger. Alors, n'écoutant que son cœur, cet homme s'arrête et lance une perche à celui qui s'enfonce, tout en attirant son attention, tout en l'invitant à saisir le bout. La personne enfoncée ne sera sauvée que si elle reconnaît être en danger, comprend qu'elle risque de mourir, saisit le bois tendu et offert, et se laisse tirer du mauvais pas où elle se trouve. Si, de manière incompréhensible, l'homme refuse de reconnaître qu'il est en péril et d'attraper la perche, il trouvera rapidement la mort. Alors, s'il constate cela, il cherchera, pour éviter donc un tel malheur, à lui faire entendre raison. Il cherchera à lui faire comprendre la menace qui vient sur lui et sa faute. Vu la gravité du péril, si l'homme en danger persiste dans son refus, il passera par divers sentiments. Leur force sera la mesure de l'amour, que l'homme porte à celui qu'il veut sauver. Plus sa vie lui sera précieuse, plus un refus de saisir l'occasion d'être sauvé le fera parcourir toute la gamme des émotions allant de la crainte à la désolation, en passant par le courage, l'espoir, la colère, la tristesse, etc. Chez celui qui s'enfonce, tous les problèmes liés à sa situation et la mort ne sont pas le signe d'un mépris, d'une vengeance, d'une revanche ou d'une punition de l'ami qui essaie de le sauver. Ce sont les simples conséquences de son refus. De se laisser sauver, bien sûr. Et de son refus d'avoir écouté aussi. Il suffit cependant qu'il prenne le bout de la perche, toujours présent, avant le dernier instant, pour être sauvé. Et donc, dans cette petite histoire, on peut comprendre que la justice, c'est la suite logique des actes que cet homme a posés. Et donc, c'est la mort en cas de refus. C'est la vie si le salut offert est saisi. Et donc la justice est fonction de ce que l'homme est, de ce qu'il fait et de la manière dont il se détermine en liberté. Et donc, c'est l'acte de Dieu qui refuse de forcer la liberté de l'homme. Mais même en cas de rejet du salut proposé, la miséricorde demeure toujours présente, sans s'opposer à la justice. Lorsque le salut est reçu, la justice de Dieu devient justification et amour goûté, autrement dit miséricorde. Celle-ci est ainsi l'offre de salut toujours présente, et le salut effectif s'il est reconnu, accueilli et saisi. Une autre image, c'est celle du soleil. Tout au long du jour, celui-ci darde sans cesse la terre de ses rayons bienfaisants qui permettent à la vie de s'épanouir. Et le soleil ne fait rien d'autre et ne fera jamais rien d'autre qu'illuminer la terre, que la régaler de sa lumière et de sa chaleur. Mais celui qui met un obstacle entre lui et le soleil, qui se met par exemple à l'intérieur, qui obstrue toutes les fenêtres ou se réfugie à la cave, ne bénéficiera pas de sa lumière, pas de sa chaleur. Vous voyez, il ne sera jamais bronzé. Par contre, dès qu'il laisse le soleil pénétrer, dès qu'il n'y a plus d'obstacle, il profite immédiatement de ses bienfaits. Et donc la miséricorde de Dieu est comme les rayons du soleil. De manière analogique, Dieu ne fait jamais rien d'autre que répandre sur les hommes sa vérité et son amour. La justice de Dieu, l'acceptation des conséquences des actes que les hommes qui sont sous le soleil posent en liberté. Une troisième image similaire quant au fond, mais similaire à celle du soleil quant au fond, est le torrent. Celui-ci ne cesse de donner de manière surabondante l'eau qui purifie et étanche la soif. Un récipient n'en contiendra que s'il est mis correctement sous la chute de ce torrent. Placé à l'envers, l'intérieur ne sera jamais lavé et ne se remplira jamais d'eau. Dieu est donc comme ce torrent qui purifie le péché et abreuve l'âme de son esprit. Sa miséricorde est comme l'eau. L'homme ne sera jamais purifié de son péché et rempli de son amour s'il ne se remet pas dans le bon sens, c'est-à-dire s'il ne se convertit pas et ne s'ouvre pas à son esprit. Une dernière histoire pour mieux percevoir l'articulation entre la miséricorde et la justice de Dieu est celle de l'enfant et de la mère en train de mijoter des bons petits plats. Voyant son enfant intrigué par le feu de la gazinière, la mère dit à son enfant de ne pas toucher les flammes afin qu'il ne se brûle pas. Elle lui interdit. Si l'enfant persiste à vouloir approcher la main, son amour maternel la pousse à répéter son avertissement et à dire plus vigoureusement l'interdiction. Il ira peut-être jusqu'à enlever la main si l'enfant l'approche du feu. Et ce jeu peut se poursuivre jusqu'à provoquer la colère de la mère et les pleurs de l'enfant. La colère de la mère provient de son dépit de ne pas être écoutée, alors qu'elle veut le bien de son enfant, qui voudrait lui éviter d'avoir mal. Le petit, lui, peut avoir l'impression erronée que sa mère ne cherche qu'à le brimer. Pour éviter la brûlure, l'adulte pourra choisir d'empêcher l'enfant d'être dans la cuisine, de l'éloigner des réchauds ou encore de les éteindre. Et ces attitudes ne sont pas une punition, mais une miséricordieuse prévenance en fait. Elles enlèvent la possibilité de se brûler. Cela dit, la mère de l'enfant ne pourra pas toujours surveiller son enfant et toujours faire cela. Si ce n'est pas possible, toujours possible physiquement, ce n'est pas non plus heureux pédagogiquement. Et de fait, l'enfant doit pouvoir reconnaître personnellement ce qui se passe quand on met la main dans le feu et vouloir l'éviter de lui-même. La réussite d'une éducation se remarque à la capacité d'un enfant d'éviter le mal et de choisir le bien, tout cela par lui-même. Donc ici, l'amour de la mère se manifeste par ses avertissements et dans les efforts qu'elle fait pour que l'enfant ne se brûle pas. Si elle sait son enfant indocile, l'éloigner des gars sera un acte émanant de la miséricorde. Elle aura enlevé l'occasion de se brûler. L'amour miséricordieux de la mère pourra aussi se manifester si l'enfant s'obstine de manière profondément déraisonnable dans l'acceptation de souffrir que son enfant se fasse réellement mal, cela dans le seul but qu'il comprenne enfin le sens de l'interdit et se corrige lui-même. Parfois, il n'y a plus d'autre solution, parce que l'enfant ne se prend pas en main, il ne le comprend pas. Et là, la souffrance de l'enfant n'est due qu'à lui-même, pas à la mère. Le comble serait qu'il rende sa mère responsable du mal qu'il s'est fait lui-même. La justice de la mère est d'éduquer son enfant à la liberté, sans se substituer à cette liberté, à éviter le mal et à accomplir le bien. Donc la justice de la mère, c'est d'accepter le risque que l'enfant puisse se brûler et ses conséquences, malgré son désir que, évidemment, cela n'arrive absolument jamais. Car s'il n'accepte pas ce risque, en fait, l'enfant ne deviendra jamais un homme. Dans cette histoire, de manière analogique, la justice de Dieu, l'acceptation du risque et des conséquences, son amour devient miséricorde de plusieurs manières. Il avertit l'homme en désignant l'acte mauvais comme péché. Il reprend l'homme qui se fourvoie. Il enlève parfois les occasions de péché. Il permet que l'on souffre du mal que l'on s'est infligé à soi-même. Donc on saisit mieux en quel sens la miséricorde et la justice ne s'opposent pas, mais sont des versants différents d'une même réalité, c'est-à-dire la relation entre Dieu et l'homme. Comme on l'a compris, la justice est la prise au sérieux de ce que l'homme est, la miséricorde est l'amour prévenant, toujours prêt à sauver. Elle ne peut cependant supprimer la liberté de l'homme et ses justices envers lui. Pour bénéficier de sa miséricorde, il suffit, mais il faut aussi que l'homme s'y ouvre, c'est-à-dire qu'il se détourne du mal et choisisse le bien. Voilà pour le rapport entre la justice et la miséricorde. Une fois qu'on a un peu mieux compris cela, on peut préciser ce que c'est que la réparation. Et pour le comprendre, il faut la restituer dans son contexte, qui est justement une logique d'amour. Ainsi, aux images précédentes, nous pouvons en ajouter une cinquième, qui est celle de la relation entre époux, c'est-à-dire une alliance fondée sur l'amour entre un homme et une femme. Lorsque l'un des conjoints est blessé par l'autre, il est parce que l'amour donné a été ignoré, méprisé, ou parce que l'être aimé a rendu le mal pour le bien, donc la haine pour l'amour. Toute personne mariée sait fort bien qu'un tel acte n'est pas rien, et combien en fait il fait mal. La personne blessée pourra toujours aimer son conjoint et être prête à lui pardonner, mais pour qu'il y ait une véritable réconciliation, pour que l'on puisse dire que l'amour règne de nouveau, vraiment dans le couple, il faut premièrement que l'offenseur cesse de faire le mal. Il ne peut pas demander pardon et frapper en même temps. Je ne peux pas embrasser en marchant sur les pieds. Et donc, il faut qu'il prenne conscience du mal commis et que la peine infligée à son conjoint l'afflige. Pourquoi ? Parce que dans cette affliction, le fautif commence à se détourner de lui. Si j'aime l'autre et qu'il a mal, je souffre de ce qu'il a mal. Et donc je souffre d'avoir fait mal. cela m'afflige. » L'offenseur donc doit décider d'arrêter de faire le mal et le faire réellement. Il est nécessaire que les coups cessent vraiment. C'est alors seulement si l'offenseur le demande que le pardon prêt à être donné peut devenir effectif. Mais en rester là crée un déséquilibre dans le couple. Celui qui a pardonné, s'il ne permet pas à l'autre de retrouver sa dignité, de se racheter, de manière étonnante, va l'humilier de son pardon par lui. Ne pas permettre de rendre le bien reçu, le bien fait, c'est tenir l'autre captif. Mais oui, puisque l'amour demande une certaine égalité. Un pardon qui procède d'un véritable amour désire élever l'autre et en faire son égal. En effet, seul l'amour peut guérir ce qui a blessé l'amour et réparer. Il faut ainsi encore que l'offenseur se mette à aimer et plus encore qu'il compense le mal commis par l'amour. Et par cette réparation, l'offenseur pardonné retrouve sa dignité et donc il peut à nouveau regarder son conjoint dans les yeux. Et donc vous l'avez compris, Dieu est comme un époux qui était ignoré, méprisé, ou pire comme un mari qui, en échange du bienfait, a reçu le mal de son épouse, l'âme chrétienne. Alors je suis loin de dire que c'est toujours entre l'homme par rapport à la femme ou la femme par rapport à l'homme, ce n'est pas la question. Dans la langue chrétienne, un acte contraire à l'amour s'appelle un péché. Et ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne Dieu, le mal est en fait encore plus grave que dans une relation conjugale pour plusieurs raisons. D'abord, Dieu et l'homme ne sont pas sur le pied d'égalité. Il est le Créateur et l'homme la créature. L'enfance de l'homme à l'égard de Dieu est donc infinie. Ensuite, à l'image du soleil qui ne fait que rayonner et du torrent qui ne fait que donner de l'eau, Dieu qui est amour ne fait qu'aimer. Par excellence, il est celui qui ne fait jamais de mal, qui est absolument innocent du mal et de tout mal. Et donc, la gravité des péchés n'en est que plus grande, sans commune mesure. C'est profondément injuste. Et leur force et leur violence se constatent dans la passion de Jésus, puisque ce sont nos péchés qui l'ont mis en croix. La gravité et l'infini de l'offense faite à Dieu font qu'il est impossible à l'homme de réparer. Dieu seul le peut, puisqu'il faut aimer parfaitement. En même temps, pour que ce soit une réelle réparation, il faut aussi que ce soit un homme qui répare. La réparation doit donc être offerte à la fois par Dieu et par un homme. On saisit ainsi pourquoi Jésus, parce qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme, est l'unique sauveur. Lui seul peut réparer l'offense faite à Dieu. Il est l'homme qui a parfaitement rendu amour pour amour au Père. De fait, en Jésus, l'humanité s'est entièrement détournée du péché. Elle a aimé jusqu'au bout, malgré la haine et la souffrance dont elle a été l'objet, jusque dans la mort. Ainsi, la satisfaction qu'est la réparation de Jésus à l'égard de Dieu consiste en un amour en retour. La satisfaction dans ce chrétien, c'est ça. Rien à voir avec un désir de vengeance ou une soif de souffrance de la part de Dieu pour faire payer les crimes. La souffrance n'est que le révélateur de la puissance de l'amour et à la passion, de l'action déshumanisante et mortifère du péché. Lorsqu'on supporte la souffrance par amour, on est certain de se trouver dans un amour véritablement désintéressé de soi. En ce sens, la souffrance est la preuve d'un amour très grand. Mais il faut aller plus loin, car apparaît c'est Jésus qui est blessé. particulièrement par ceux qui lui sont consacrés, c'est-à-dire les baptisés. En effet, il leur a donné le salut, et voilà que ceux-ci en font peu de cas ou le méprisent. La douleur de Jésus est causée par le refus de celle-ci sauvée et par la complaisance dans le péché. Elle est aussi due au peu de reconnaissance pour tout ce qu'il a enduré pour notre salut. Et donc, on comprend pourquoi Jésus demande à la visitandine de réparer. Et cette demande, quand on comprend, découle de la logique de l'amour. Car si Jésus est le seul capable de réparer l'offense faite à Dieu, de rendre à Dieu un amour digne de lui, le Père et le Fils désirent élever l'homme et en faire son égal. En répondant à la demande de Jésus, avec lui, par lui et en lui, comme on dit à la messe, l'homme peut lui aussi réparer. Et cela est beau. Et quelle est cette réparation possible? Eh bien, elle se décline de plusieurs manières. C'est tout d'abord vouloir réellement se détourner de son péché et faire de son mieux en ce sens, c'est-à-dire d'arrêter d'agir de manière contraire à la vérité et à l'amour. C'est ensuite d'accepter de souffrir du mal commis. C'est ensuite accepter de souffrir du mal commis. Alors, je développe cela un peu plus bas. Réparer, c'est encore continuer à croire en l'amour de Dieu pour nous et accepter son pardon. En ce sens, c'est accepter de se laisser aimer et sauver. Et c'est aussi, dans la lutte pour ne plus pécher, accepter l'amour de Dieu malgré mes propres misères et mes chutes. Plus activement, réparer, c'est tout à la fois compatir aux souffrances de Jésus et à celles des membres de son corps, les consoler, et à sa suite et avec lui entrer dans le don de soi par amour de Dieu et des autres. C'est donc épouser la dynamique divine de l'amour révélé en Jésus et faire comme lui, se donner et aimer jusqu'à l'extrême. Une dernière image nous aide encore à préciser ce qu'est la réparation. Dieu connaît nos limites et nos faiblesses. Et donc Dieu nous demande de réparer un peu comme un petit enfant aide son père, c'est-à-dire du mieux qu'il peut en fonction de ce qu'il est. Voilà pour la réparation. Alors tout ce que je viens de voir pose la question de la souffrance. Ceci est d'ailleurs lié au Sacré-Cœur, puisque l'une des choses que Jésus demande à Marie à la coque, c'est leur sainte. Alors, pour rappel, il s'agit de passer une heure en communion avec Jésus à Gethsémani, c'est-à-dire accepter de partager l'angoisse qu'il y a vécue. Ici, de nouveau, la chose ne peut se comprendre qu'à l'intérieur de la dynamique de l'amour. À l'heure sainte, il s'agit d'être auprès de Jésus comme on visite une personne qui souffre beaucoup. Le simple fait de tenir compagnie confère une force énorme de consolation. Alors comment? Le souffrant souhaite de tout son cœur pouvoir fuir le mal et ne plus devoir le subir. Or voici que le visiteur, par sa présence, accepte de souffrir avec lui. Il opère donc le mouvement inverse. L'amour le tient au pied du lit de souffrance. Visiter un malade, c'est lui dire qu'on l'aime malgré sa souffrance. C'est accepter de vivre la souffrance avec lui, de souffrir, d'où l'incroyable puissance de consolation. Cet amour-là est très pur car il est profondément désintéressé. L'amour se révèle ainsi dans l'acceptation de supporter avec lui la souffrance d'autrui. L'amour est plus fort que la souffrance. Et j'accepte de souffrir par amour pour l'autre. Dans la réparation, il est aussi question d'accepter de souffrir du mal que l'on a commis. Donc, encore une fois, ici, il ne s'agit pas d'un désir sadique de Dieu, d'une vengeance subtile et perverse de sa part. Ce n'est pas ça du tout. C'est plutôt la conséquence de l'amour. Celui qui aime souffre d'avoir blessé l'autre. La douleur intérieure due à la prise du de conscience du mal infligé console parce que c'est le signe d'un repentir réel et du désir que le mal commis n'ait jamais eu lieu. Et donc, cette souffrance est le signe authentique d'un véritable changement. À la haine a succédé l'amour. En fait, comme le dit Benoît XVI dans Spé sa vie, je cite, la mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance de celui qui souffre. À la souffrance et à la souffrance de celui qui souffre. Et cela est vrai au niveau individuel et au niveau social. Pourquoi ? Parce que éliminer la souffrance du monde est impossible pour l'homme. Pour deux raisons, on ne peut pas supprimer la finitude de l'homme ni le pouvoir du mal. Aussi, accepter de souffrir pour le bien, la vérité et la justice, pour l'autre ou pour l'amour, est une condition nécessaire pour éviter une société où règne la loi du plus fort, la violence, le mensonge, la solitude et la haine. Pour l'homme blessé par le péché, l'amour implique la souffrance parce qu'il est sorti de soi, émondage et blessure. Et donc il est aussi essentiel de préférer le bien, la vérité et la justice à son honneur, son confort et son intégrité physique sous peine de sombrer dans l'anarchie. Enfin, l'amour est sorti de soi pour aimer l'autre aussi quand il souffre. Et s'approcher de celui qui souffre implique d'accepter de souffrir soi-même, ne fût-ce qu'en compatissant. Donc c'est ce qu'on a vu en parlant de leur sainte. Je conclue ce cours et ces quatre cours. Nous avons vu ensemble d'abord les événements de Paray-Monial, la vie de Marguerite Marie, qui met particulièrement en relief le cœur de Jésus puisqu'il s'agit là de le faire connaître, et c'est bien une des grâces de Marie. Ensuite, nous avons vu combien ce qui dit à Paray-Monial n'est pas quelque chose tout d'un coup qui s'ajoute de nouveau, c'est quelque chose qui était toujours présent, déjà dans l'Écriture, de manière claire en tant qu'amour, de manière implicite sous la forme du cœur, mais déjà bien présent. Et nous avons vu aussi, dans la tradition de l'Église, que tout était là, et petit à petit s'est développé. Et enfin, nous allons approfondir théologiquement quelques petits points, le symbole et la réparation. Alors, parler du cœur de Jésus, c'est bien. Mieux comprendre a une grande valeur. Mais à la fin de ce cours, que dire si ce n'est que ce qui compte, c'est d'entrer dans la dynamique, c'est de se laisser aimer par le Seigneur et de l'aimer. Une des manières, eh bien, c'est de mettre le cœur de Jésus au cœur de sa vie. Je vous souhaite une bonne année.